Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport. Donc, nous accueillons votre émission hebdomadaire chaque lundi 19h-20h30. Nous sommes en compagnie de Pascal Crène, président de l'ESCHN. Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est pas la première fois qu'on a le plaisir de te recevoir. Je crois qu'on s'était déjà reçu la saison dernière, non, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Parfait. Donc, ce que je te suggère, Pascal, c'est que tu nous fasses en introduction un mot de présentation pour ce qui te concerne et un historique sur le club.
Alors, en présentation, moi, je suis le président du club de Champigny. Donc, pour ce qui concerne l'historique du club, il date de 1937, donc il risque d'être un petit peu long. À aujourd'hui, on a 205 licenciés, 3 équipes seniors, 1 équipe U17, 2 équipes U15, 2 équipes U13, 1 équipe U11, et des jeunes en football d'animation.
Est-ce que vous avez une section féminine ou pas?
On n'a malheureusement pas de section féminine, on n'a que quelques filles et vraiment très peu, quoi. On doit avoir 3 filles dans l'effectif.
Et donc, il y a une entente avec d'autres clubs pour qu'elles puissent pratiquer leur sport?
Non, on n'a plus d'entente actuellement, on n'est plus en entente. Je dirais, les filles que l'on a, elles sont dans les équipes avec les garçons. Après, elles peuvent rester là jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, ou avant qu'elles arrivent à 15 ans, je dirais, on aura la chance d'avoir beaucoup de filles, ou sinon, elles iront ailleurs.
Est-ce que la période Covid a impacté ton nombre de licenciés?
Eh bien non, puisqu'on était à 188 l'année dernière, aujourd'hui on est à 202. Donc je dirais le Covid, alors attention, hein, peut-être que ça a impacté des clubs et que nous on se retrouve avec quelques enfants de plus parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas pu faire des équipes en jeunes ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en entente avec Saint-Yrieix jusqu'à l'année dernière et qu'on a arrêté l'entente cette année. Donc sur les jeunes, je dirais, on pensait pas forcément avoir autant de jeunes et en fait, si. Ça n'a pas changé les choses.
Comment ça se passe, les compétitions avec les jeunes, alors?
Eh bien, on a une équipe U17 au niveau 1.
D'accord.
En district. Ensuite, on a une U15 en régional 2. On a une U15, en fait, c'est que des U14 qui sont dans une équipe U15 en district. Et après, on a deux équipes U13 et deux équipes U11, donc c'est en district, bien sûr.
Donc, c'est un club formateur.
Oui.
Au regard des jeunes, au regard des U15, des U13, c'est quand même, vous êtes un club formateur.
Ah oui, tout à fait. Faut savoir que dans nos équipes seniors, sur un effectif de 52 seniors, on a 20 seniors qui ont été formés chez nous.
Ah oui, c'est bien, presque 50%.
Pas tout à fait, mais oui.
Presque. Cette entente avec Saint-Yrieix, est-ce que c'était une nécessité de se séparer ou c'était d'un commun accord?
Disons que le fait est qu'il y a eu des modifications au niveau des textes de la Ligue. Donc, en fait, on aurait à terme été obligé de toute façon de se séparer.
Oui.
Après, bon, l'avoir fait maintenant, c'était une volonté, je dirais peut-être, enfin, c'était pas une grande volonté, c'est de toute façon, fallait y passer. Donc, ça s'est fait là. On aurait pu continuer encore, je dirais, sur un an ou deux, mais ça aurait pas été plus loin. Donc, fallait bien faire un ou un autre. Alors, je dirais juste après Covid, ça a peut-être permis effectivement que ça aille un peu plus vite.
Oui, puis peut-être que les jeunes aussi sont plus proches de chez vous que de Saint-Yrieix, non?
Non, je pense pas. C'est pas spécialement. Je dirais c'est le fait est que l'année dernière, on était porteur sur les U15. Saint-Yrieix était porteur sur la catégorie U17. Donc, ils ont conservé les U18 en Ligue. On a conservé les U15 en Ligue.
D'accord.
Voilà, après, il y a des joueurs de chez nous qui sont partis chez eux, des joueurs de chez eux qui sont chez nous, et ça s'est fait tout naturellement comme ça.
Après, il y a la Rochefoucauld, il y a pas tellement de clubs autour dans les 10...
On a Revel qui est juste à côté de chez nous.
Ah oui, il y a Brie, c'est vrai, j'avais oublié Brie.
Revel.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié tout ça, oui.
Revel, c'est un très très gros club, mais un très gros club de jeunes.
Et en ce qui concerne donc ce début de... Alors le Covid, comme disait Didier, Est-ce que pendant ce Covid-là, vous avez eu, donc il y a eu cette période d'arrêt, est-ce que pendant cette période d'arrêt, vous avez recruté, vous avez conservé le même effectif et aujourd'hui, vous en êtes où au niveau du championnat? On a un petit peu regardé les résultats qui ne sont pas peut-être à l'espérance du club.
Non, pour l'instant, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Oui, on a conservé nos joueurs en grande partie. Après, on a quelques joueurs nouveaux qui sont arrivés. Bon, les résultats de début de saison sont un peu compliqués dans la mesure où on a quand même beaucoup de blessés. On s'est retrouvé jusqu'à 17 blessés dans l'effectif senior.
Oui. Ah, c'est énorme, ça, oui.
Ah, ouais, quand même. C'est énorme. Mais on pensait démarrer les trois équipes dès le début du championnat. Donc, on n'a pas fait de report sur l'équipe C au premier tour. Et en fin de compte, on était obligé de faire forfait, car même le mardi, juste avant les championnats, on a encore eu deux blessés supplémentaires. Alors, on savait bien qu'après Covid, je dirais, même si on a maintenu des entraînements tous les samedis, puisqu'on pouvait pas les faire le soir, tous les samedis, il y avait des entraînements, mais bon, tout le monde n'était pas forcément là. Et c'était pas des entraînements, je dirais, habituels, dans la mesure où il n'y avait pas de championnat. Et on savait bien qu'il y aurait des soucis, mais on pensait vraiment que les soucis de blessure arriveraient un petit peu plus tard sur la saison. Mmh. À savoir qu'on pensait plus que ça arriverait vers le mois de novembre, quand on enchaînerait tous les matchs. Mmh. Et en fin de compte, ça a démarré dès le début, dès la fin août, on a eu beaucoup de soucis de joueurs blessés. Donc on espère qu'on va réussir à en sortir, mais en espérant que ce ne soit pas les autres joueurs maintenant qui se blessent, quoi.
Donc il y a quand même deux équipes qui sont engagées en championnat, Pascal, si j'ai bien compris.
On en a trois, mais je dirais, il y en a deux qui ont fait tous les matchs, et il y en a une qui a été obligée de faire un forfait, et le match suivant qui a joué avec un effectif très compliqué, très récent.
Dans un premier temps, je pense que c'est de sortir de cette mauvaise passe.
Mais voilà, je dirais, dans ces cas-là, il faut faire le dos rond, et puis essayer de faire du mieux possible, et puis attendre que ça passe, quoi.
Vous êtes dans une poule, Pascal, où il y a beaucoup de Charentais, non, quand même?
Oui, on est cinq Charentais dans la poule.
Donc c'est potentiellement autant de derby.
Exactement. C'est quatre derbies, deux fois quatre derbies sur la saison.
Donc de mémoire, il y a Puy Moyen, La Couronne, Soyot.
Soyot, Vindel.
Voilà.
Et Champigny.
Vous avez affronté une équipe charentaise déjà depuis le début de saison.
Oui, on a déjà affronté deux. On a affronté Puy Moyen chez nous.
Vous êtes incliné, c'est ça?
En match d'ouverture, on a perdu sur ce match-là.
3-1, c'est ça?
Oui, tout à fait. On a rencontré La Couronne chez eux, on a gagné 3-2. Soyons samedi soir.
Donc là, ils sont bien passés.
Ouais, ils sont premiers ex-aequo, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ils ont gagné tous leurs matchs. Donc ils sont en pleine forme, je pense.
Et où est la défaillance sur le terrain? C'est l'attaque, c'est le milieu, ou c'est la défense, ou c'est un tout?
La défaillance. Je pense que d'un match à l'autre, c'est un petit peu différent, quoi. C'est, on avait une carence offensive qu'on a essayé de résoudre. Mm-hmm. Mais, c'est surtout sur le manque de joueurs, le manque de joueurs pour tenir 90 minutes, quoi.
Oui, parce que je vois que vous avez 52 seniors, si j'ai bien noté. 52 seniors avec trois équipes, sur la feuille de match, on en met 14, je crois, non?
Oui, mais là, on peut pas en mettre 14 pour l'instant.
Voilà, c'est ça que... Oui, il est là, peut-être, le problème actuel.
C'est un peu ça. Mais on... Bon, ça, c'est passager. Je pense que ça va pas durer encore très longtemps, mais on aura vraiment résolu tous nos problèmes, je pense, si tout va bien et si on n'a pas d'autres blessés, début novembre.
Donc, le bilan, c'est 5 buts pour, 8 buts contre. Donc, avec un goal average négatif de moins 3. Est-ce qu'on peut déceler par-delà les chiffres secs des carences ou des points à améliorer?
Alors, je dirais le point amélioré en attaque, parce qu'on attaque quand on a des occasions, mais on a besoin de trop d'occasions pour marquer, donc il faut améliorer en attaque, bien sûr. Mmh. Après, en défense, je pense que ça vient plus à un problème de manque de fraîcheur, donc de manque de joueurs. Plus qu'autre chose. Alors, faut savoir quand même qu'on n'a pas, on a été à Ribéra, qu'on avait trois absents sur la défense. Donc, ça pose des soucis. À Ribéra, qu'on a emmené un 0 le 75e. Et, en défense, on avait un joueur qui revenait de blessure, qui n'avait pas joué depuis un mois. Et un joueur qui est sorti aux environs de la 70e. Un défenseur central, parce que bon, il était à court physiquement. Donc, c'est un peu compliqué, si vous voulez, quand, Si vous avez un effectif complet, vous pouvez faire des choix, vous pouvez mettre les bons joueurs au bon endroit. C'est, quand vous n'avez pas d'effectif, quand l'effectif n'est pas disponible, c'est un peu plus compliqué. Mais après, je dirais que ça doit être un peu pour tous les clubs pareil. Parce qu'on ne doit pas être les seuls dans cette situation.
Ce fait-là, puisque vous me dites que déjà, il y a un an ou deux ans, vous aviez pratiquement le même effectif. Et derrière, vous avez quand même des jeunes qui sont susceptibles de prendre peut-être place sur le banc.
Oui, tout à fait. Mais on les a déjà introduits, les jeunes. Ils étaient déjà l'année dernière. Même qui était déjà là il y a deux ans. Après, il faut savoir qu'on a une coupure sur les jeunes. Donc, on n'a pas de jeunes qui sont rentrés en senior depuis deux ans. C'est ça. Et on n'en aura pas qui rentreront avant deux ans. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on va avoir une période de à peu près de quatre ans sans jeunes de l'école de foot qui vont rentrer sur le senior.
Et oui, et peut-être qu'il est là le problème, non?
Oui, enfin, ça peut être une partie du problème, mais en réalité, si vous voulez, avec l'effectif qu'on avait, on ne pensait pas avoir des problèmes de blessures comme ça dès le début de la saison, quoi. On savait bien que ce serait compliqué par rapport à l'enchaînement des matchs sur octobre et novembre, mais on pensait pas du tout que ça allait démarrer en septembre, quoi.
Et c'est pas aussi le fait que, avec cette période que tout le monde a subie hein, sur le Covid, où à un moment donné, les entraînements ne se déroulaient pas dans de bonnes conditions. On ne pouvait pas être collectif puisque c'était limité à 5-6 personnes.
Ben, de toute façon, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de juin, si vous voulez, tous les entraînements qui ont été faits, il n'y avait rien de très intensif. En plus, faire des entraînements, donc d'abord c'était un entraînement par semaine. Bon, quand on pouvait le faire le soir en semaine, on a fait deux par semaine, mais les trois quarts du temps, c'était que le samedi matin, puisqu'il y avait un couvre-feu une grande partie de l'année. Donc, c'était que le samedi matin. Donc, c'est vrai que les joueurs, je dirais, depuis le mois d'octobre jusqu'à la reprise, jusqu'à fin juillet, en gros, ils n'ont pas vraiment fait d'entraînement intensif et ils n'ont pas fait de match. Donc, je dirais, il y a les entraînements, mais il y a aussi le côté match, à savoir que quand les joueurs jouent, ils jouent. Et les entraînements, c'est bien, mais ils aiment bien jouer au football, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de match, ils sont moins assidus sur les entraînements.
Il n'y a pas eu de réticence sur la vaccination, parce que des fois, il y a des joueurs, des bons joueurs, qui n'osent pas se faire vacciner et qui ne peuvent pas jouer. Et il y a eu des équipes, d'ailleurs, qui ont déclaré forfait en début de saison.
Nous, on n'a pas eu ce souci. Donc, bon, on a quelques joueurs qui ont fait des tests antigéniques jusqu'à la semaine dernière, autant que tout le monde soit vacciné. Mais aujourd'hui, il faut savoir que tous nos joueurs sont vaccinés, donc même pour ce week-end, il n'y aura pas de test PCR.
Bon, ça c'est bien quand même.
Ça c'est bien.
Donc sur toute la liste de joueurs, ils sont tous vaccinés. On a eu très très vite les joueurs vaccinés. Hein. Ils sont très vite fait vacciner de manière à pouvoir jouer facilement et puis s'entraîner sans problème.
Alors qui est-ce qui entraîne l'équipe Fagnon et on va parler aussi des entraîneurs des jeunes hein, qui réalisent une très très belle un très très beau début de saison.
L'équipe Fagnon, c'est toujours Christian Soumagne.
Son parcours, il vient d'où lui déjà, Christian Soumagne, Pascal?
Alors, Christian Soumagne, il a été à Ruel, à CFC, à Macampagne, à Saint-Yrieix. Ouais, il a entraîné longtemps Macampagne et assez longtemps Saint-Yrieix aussi.
Il est chez vous depuis combien de temps? Deux ans?
Non, c'est...
Est-ce que vous avez eu, si mes souvenirs sont bons, je m'excuse Pascal, vous avez eu Pascal Joly?
Éric Joly.
Éric Joly, qui était entraîneur ici à NR5.
Voilà, c'est ça. Eh bien, oui, on a eu Éric Joly 3 ans. Et Christian Soumagne, c'est sa cinquième année.
Et en ce qui concerne les jeunes, puisque là, si on enlève les 52, 53, même 55 seniors, il y a quand même 150 jeunes répartis dans plusieurs catégories. C'est beau.
Oui, non, alors il y a quand même quelques joueurs de foot loisir à rajouter.
Ah, d'accord.
Il y a une dizaine de joueurs de choisir. Et puis après, je dirais, sur les jeunes, on a donc les 17 ans, c'est Frédéric Lévesque et Vincent Aubry qui s'en occupent. Mm-hmm. Après, on a en U15, on a Mathieu Desclides avec Corentin Pau. Et sur l'équipe U15 District, c'est deux joueurs de l'équipe première qui sont Adam Damouni et Erwan Bonnet. Mm-hmm. Ensuite, en U13, donc on a Claire Morel. sur la bonne équipe 1. Et puis on a un joueur de la première aussi qui est Nicolas Degor sur l'équipe B. En U11, c'est Jérôme André. Et en U10, c'est Cyril Bonneau. Voilà. Et après, l'école de foot, donc c'est Patrice Bonin qui s'occupe sur les catégories en dessous.
Donc vous avez un encadrement bien spécifique quand même. C'est très structuré, non?
Oui, on est assez, oui, c'est assez structuré. On a sept éducateurs diplômés.
D'accord.
Donc, ça permet de faire des choses intéressantes.
Vous êtes président de Champigné depuis combien de temps?
Ça doit faire 6 ans.
6 ans.
Oui, c'est ça. Ça fait 6 ans.
Et auparavant, vous étiez au club Pascal ou
Oui. J'étais vice-président pendant 3 ans.
D'accord.
Et avant, non, j'étais pas au club. J'étais à Champigny, j'y étais il y a très longtemps, quoi. J'étais bien plus jeune quand j'étais à Champigny. Et puis après, si vous voulez, je suis revenu quand mon fils a joué. Mon travail ne me permettait pas du tout de m'occuper du foot à l'époque. Ouais. Et puis quand j'ai pu me rapprocher, quand je me suis retrouvé plus disponible, j'ai donné un coup de main au niveau du club. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé.
Et vous avez joué où?
Moi, j'ai joué à Champigny qu'en foot loisir. J'ai pas joué.
Ah d'accord. C'est bien.
Originaire d'Indre-et-Loire, donc.
C'est quand même bizarre de venir, de devenir bizarre. C'est surprenant de venir sur une activité que, étant jeune, vous n'étiez pas sur le terrain, quoi.
Si, mais en Indre-et-Loire.
Ah oui, mais à quel niveau alors?
En sport universitaire seulement. Donc en sport ASU, j'ai joué étant très jeune dans un petit club et puis ensuite j'ai joué en ASU. Sinon, je n'étais pas trop dans le foot.
Il y a eu du renouveau alors quand vous êtes arrivé en ce qui concerne l'encadrement, bureau.
Ça bougeait un petit peu, mais pas beaucoup, non. Non, mais il y a une continuité qui s'est faite. En termes d'encadrement, mais Patrice Bonin et Claire Morel étaient déjà au club, puisqu'ils sont détachés de la mairie sur le club. Et ensuite, au niveau des éducateurs des jeunes, ça bouge régulièrement, ça change assez souvent. Au bout de quelques années, je dirais, ça change un peu. Mais après, dans les dirigeants, non, le secrétaire, c'est le même. J'ai un vice-président qui était là déjà à l'époque. Le trésorier est resté Eric Toureau. Il n'y a pas de changement, je dirais, important.
Et qui est-ce qui se charge des recrutements?
Les recrutements, des joueurs.
Oui, des joueurs, quand c'est l'intersaison et qu'il vous manque un avant-centre, ou vous aimeriez bien avoir un avant-centre ou un défenseur.
C'est essentiellement les coachs, mais je sais, c'est les coachs, c'est les joueurs, c'est les connaissances de Pierre, Paul, Jacques. On n'est pas un club qui rémunère.
Ça, c'est bien.
Donc, on peut pas recruter. C'est pas le président qui charge d'aller recruter des joueurs. Voilà, ça se fait naturellement, quoi, comme ça se fait dans beaucoup de clubs, je pense.
Vous écoutez Culture Sport, merci d'avoir choisi Radio Attitude. Vous nous suivez à Angoulême sur 98.3, sur Barbezieux et Cognac également, 90.7 à Ruffec, et nous retrouvons Pascal Crène de l'ES Champigny.
Pas forcément, je dirais moi en R1, pas forcément. Hein. Vous êtes pur bénévole, quoi. C'est ce oui. que je... Oui, ça se fait pas partout. Je connais des clubs à ce niveau-là. Voilà. Après, c'est leur problème. Hein. Mais c'est vrai que vous représentez bien ce qu'est la vie, ce qui devrait être la vie associative et ce qu'est le bénévolat, c'est-à-dire de pas bah, d'aimer ce que l'on fait. Quoi.
Oui. Après, on est en R3, on n'est pas en R1. Hein.
J'anticipe parce que vous avez parlé il y a 4 ans. Dans 4 ans, avec les jeunes que vous avez aujourd'hui, qui vont encore progresser et qui vont vous emmener. Voilà, vers peut-être le plus haut.
Oui, je veux dire. Bon, après, on verra. On verra dans 4 ans, on en reparlera. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un championnat, il y a 12 équipes.
Oui.
Je pense que tout le monde veut gagner. Le principal, c'est de prendre du plaisir, mais de gagner des matchs, de faire des bons matchs. Et après, les choses arrivent quand elles doivent arriver.
Est-ce que vous avez projeté est-ce que vous avez un plan à 2, 3, 5 ans pour savoir où vous serez, en quelle division, etc.
Non.
Non. Donc c'est, en fait, vous faites saison par saison et match par match, quoi, si j'ai bien compris.
Je dirais pour commencer, pour cette saison-là, Oui, on fait match par match, parce qu'il faut savoir où on se situe, où on en est, par rapport à une année sans avoir rien fait. Honnêtement, je veux dire, c'est difficile à savoir si on a une équipe qui est bonne, moyenne ou mauvaise. On pense, nous, qu'elle est bonne.
Oui.
Mais ce qu'on pense, nous, et ce qui va se passer sur le terrain, c'est, ça peut être différent.
Ouais, c'est quand même un début difficile avec donc une défaite, je crois, deux défaites et une victoire.
Vous gagnez, vous perdez un match. C'est pas forcément parce que vous êtes une qui est plus forte en face de vous, vous gagnez ou vous perdez. Hein. Ça peut des fois venir sur des faits de jeu qui sont pas favorables. C'est compliqué à dire aujourd'hui quelles sont les équipes qui seront en haut en fin de saison et quelles sont. Alors, il y a peut-être quelques-unes, on peut déjà le savoir par rapport aux résultats qu'ils font. Une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse peu, faut pas se leurrer, c'est que ça va tenir la route.
Est-ce que la poule dans laquelle vous évoluez est différente géographiquement de celle où vous exerciez la saison passée?
Non, c'est la même poule.
C'est la même. Donc, vous avez des points de repère quand même.
Oui, tout à fait. Il y a des équipes qu'on connaît déjà. Après, elles ont changé un petit peu. Et vous voyez, il y a certaines équipes qui sont en bas du tableau. Moi, je les ai vues jouer. J'ai vu deux matchs de Jonzac. Ils sont en bas du tableau. Mais je les ai vues jouer à Cireuil. C'est pas une équipe de bas de tableau. Hein. Alors, l'équipe que j'ai vue jouer à Cireuil, c'est une très bonne équipe. Après, voilà, ils sont en bas du tableau parce que peut-être que ponctuellement, ils ont des soucis. Je sais pas. Mais... Ça me surprend beaucoup.
Donc, ça veut dire que ça va être quand même une saison dure. Enfin, compliquée. Pas dure, bon, ça se dit pas, mais compliquée.
Oui, je pense qu'elle sera compliquée. Mais en fait, moi, personnellement, je suis pas très inquiet sur la saison. Le plus gros souci, je pense, qu'on puisse avoir, c'est la gestion de nos joueurs qui sont blessés. Donc, tous nos blessés et nos suspendus, puisqu'on en a aussi, seront rentrés, on aura un choix d'effectifs plus important.
À l'heure où on parle, on ne peut pas savoir combien il y aura de descentes.
À mon avis, ce sera deux, puisqu'il y a 12 équipes par poule.
D'accord.
Ça devrait être deux par poule, théoriquement.
Est-ce qu'on peut revenir un instant, Pascal, sur la saison passée? Comment ça s'était terminé? Où est-ce que vous vous situiez dans la hiérarchie? Parlez-nous un petit peu de cette saison passée.
On avait fait 4 matchs, donc c'est compliqué à dire. On devait être 6e, un truc comme ça. Mais ça ne veut rien dire, parce que on devait être à 2 ou 3 points de la 2e place et puis à 2 ou 3 points de la dernière place. Donc, c'est pas significatif.
Et les entraînements, actuellement, vous arrivez à faire 2 par semaine?
Ah oui, ça
vous les faites, c'est en endurance, c'est collectif, c'est physique, c'est les entraînements, c'est des matchs aussi amicaux, peut-être, dans la semaine?
Non, on fait pas de matchs amicaux dans la semaine, c'est un entraînement le mercredi et le jeudi. J'ai un peu plus intensif le mardi, pardon, pas le mercredi, le mardi et le jeudi. C'est un peu plus intensif le mardi, mais ça reste aussi intensif quand même le jeudi. Mais on n'a pas de souci au niveau des entraînements actuellement. En plus, le temps est parfait, donc tout va bien.
Vous avez des structures, enfin, je connais le terrain. Vous avez quand même des structures correctes.
Oui, on a un terrain d'honneur qui est très bien. On a un terrain qui va bien en ce moment. Après, quand il va se mettre à pleuvoir, ça va être peut-être un peu plus embêtant. On souhaiterait qu'il soit toujours comme ça, quoi. Ce serait parfait. Mais je dirais là, bon, en plus, avec une période d'inactivité sur les terrains pendant quand même très longtemps, ce serait dommage que le terrain soit pas en bon état, quoi. Ce serait quand même un peu surprenant.
Est-ce qu'on peut revenir au terrain, Pascal, si vous le permettez? Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans quel schéma tactique joue l'équipe, joue vos équipes? Est-ce que c'est le même schéma technique pour les trois équipes, ou est-ce qu'il y a des entraînements différenciés?
Alors, il y a des entraînements différenciés. Il faut savoir que le groupe premier s'entraîne tous en même temps, hein. Mais il y a le groupe premier qui s'entraîne et le groupe de la B et de la C qui s'entraîne à côté. Dans le groupe premier, si vous voulez, vous avez une vingtaine de joueurs, donc il y en a qui jouent en B et l'OIM. Et dans le groupe de la B et la C, il y a autant de joueurs qui vont jouer en B que de joueurs qui vont jouer en C, quoi. D'accord. Après, il y a des joueurs qui jouent en C qui s'entraînent pas. Mais bon, c'est 104e division, donc c'est différent. Après, au niveau, des, au niveau de la tactique, c'est les coachs qui vous en parleraient mieux que moi. D'accord. Mais bon, ils jouent sur le terrain, c'est tout ce que je peux vous dire.
Bon, c'est déjà ça. C'est déjà
Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a une différence entre l'équipe qui joue en R3 et l'équipe B ?
Une différence
au niveau de division. Au niveau de division.
Alors, ben, l'équipe B joue en deuxième division.
Ah, les deux, donc, voilà.
Ah oui, ça fait beaucoup, oui.
Hein ? Non, non, c'est pas énorme. Il y a que deux
divisions. Il y a deux divisions d'écart, oui.
C'est pas énorme. C'est correct. En plus, je dirais, les joueurs qui jouent en B aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui ont joué en équipe première dans les années précédentes. Oui. Et, voilà, donc ça permet d'avoir une équipe B correcte. Il y a des joueurs qui sont potentiellement utilisables en équipe.
Ils sont classés combien, l'équipe 2 ?
Plus 3 ou 4e, ils ont gagné 2 matchs, ils ont perdu 2 matchs.
D'accord.
4e ou 5e, un truc comme ça, ouais.
Ça permet effectivement de pouvoir prendre des joueurs de l'équipe 2.
Oui, non, mais tout à fait.
C'est bien d'avoir quand même un stade éclairé pour pouvoir jouer le soir, quand même. Notamment à la belle saison, c'est très agréable, non ?
Ah bah oui, oui, oui. Mais je pense que c'est surtout les joueurs qui apprécient. Ouais. Moi, j'ai proposé déjà de jouer le dimanche après-midi en hiver. Ils ont toujours refusé, ils m'ont dit non. Parce que bon, il y avait possibilité à une époque de demander à partir du mois de novembre de jouer le dimanche après-midi. Mais en fait, ça aurait concerné sur tous les matchs pour décembre, janvier, février, quoi. Ça représentait en gros trois matchs à domicile.
Pour quelle raison vous aviez suggéré ça ?
Parce que le samedi soir, il fait froid, il n'y a pas de public.
D'accord, j'ai compris. Vous avez raison.
Les tribunes sont vides. Donc, mais les gens ne le souhaitaient pas. Eux, ils préfèrent le samedi. Après, moi, je les comprends, hein, parce que ça leur permet d'avoir leur dimanche tranquille. C'est bien aussi. Hein. Honnêtement, si j'étais joueur, je préférerais jouer le samedi aussi.
Vous allez faire des manifestations là, où il y a quelque chose qui est prévu pour notamment rentrer d'argent, également.
L'auto.
Voilà.
Alors, non, du tout comme ça, on n'a pas de prévu. On va probablement faire le rubrique camarade en mois de juin, comme on avait prévu déjà l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu faire. Mm-hmm. Après, on va essayer de faire un tournoi du 13. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu le faire. Mais ça rentre pas d'argent. Mais bon, on va essayer de le faire. C'est plus pour la satisfaction de faire un tournoi. Et puis après, pour rentrer de l'argent, je sais pas vous dire qu'on n'est pas à la rue.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire tourner un effectif comme vous avez, qui est quand même, il y a 200 quand même licenciés, vous avez alors il y en a qui font des manifestations parce qu'il faut quand même une rentrée d'argent, hein. Je suis président d'association, donc, voilà. Je suis obligé de faire une manifestation, pour pas que les adhérentes, subissent trop d'augmentation. Et vous avez des partenaires, donc des partenaires importants. Parce qu'il y a une zone commerciale quand même à Champigny.
Voilà, on n'a pas de partenaires importants. On a quelques partenaires qui sont
plus. Ouais, je m'excuse. Oui.
On n'a pas de partenaires importants. Par contre, on a beaucoup de partenaires.
Voilà, c'est mieux. Vous en avez combien à peu près, Pascal ?
Alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais
une vingtaine peut-être ?
Non, on avait 58.
58, oh
là, c'est bien. Ah ouais, c'est bravo.
La dernière fois qu'on les a comptés, on avait 58. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire.
Bravo.
Avec le Covid, on a perdu, bien évidemment. Mais après, on n'est pas non plus. On ne leur donne pas une fortune, mais ça permet d'en avoir beaucoup, ouais. ça nous aide.
Ouais, c'est les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, vaut mieux avoir exactement. Ça qu'un sponsor voilà. majeur, ou un ou deux sponsors majeurs qui d'une année à l'autre se désistent et vous plongent dans la réflexion de savoir comment vous allez faire.
Exactement. Voilà, exactement.
À propos on parlait de l'assistance du public quand il fait beau. Il y a vous êtes suivi par une poignée de fidèles ou pas ?
Oui. En plus, je veux dire depuis la reprise de la saison. Alors, est-ce que c'est le manque, le phénomène de manque ou quoi ? Mais même l'année dernière déjà, c'était pareil. Les quatre premiers matchs de la saison, il y avait plus de monde que les années précédentes. Mais vraiment plus. Je pense que c'est un manque, je dirais, la première année de Covid, quand ça a arrêté au mois de mars, quand les gens ont pu ressortir ressenti un peu libéré. Et le fait qu'au mois d'octobre, enfin au mois de novembre, début novembre l'année dernière, ça y arrêté de nouveau. En début de saison, on avait vraiment du monde dans les tribunes. Donc, est-ce que ça a duré ou pas? Après, je vous dis, à partir du moment où il a commencé à faire froid, on me dit, bon, ça va être comme les autres années, quoi. Les gens vont pas forcément sortir. C'est normal. Mm-hmm. S'il fait zéro ou plus un dehors, c'est pas forcément le samedi soir que vous allez aller au bord des terrains.
Pour avoir eu autant de jeunes, il y a eu un gros travail qui a été en amont avec les écoles, avec les... Pour avoir autant de jeunes comme ça, comment vous êtes organisé?
En gros, si vous avez des passerelles avec des établissements scolaires.
Il faut savoir que oui, ça en a. On a Patrice et Claire qui sont au service des sports de la mairie, qui interviennent dans les écoles et qui sont détachés sur le club de foot le mercredi pour l'éducation des jeunes. Donc ça, je dirais, c'est une passerelle. Et puis, la deuxième passerelle qui est intéressante, c'est que le centre de loisirs transporte les enfants au sport.
Donc, ça, c'est important, ouais.
Voilà, mais pas qu'au foot, hein, à tous les sports sur Champigny. Donc ça permet d'avoir les enfants qui sont en centre de loisirs, les avoir aussi dans les clubs de sport, pour les associations, quoi.
Ça, c'est bien.
Et donc c'est un avantage d'avoir une mairie qui pense au sport comme ça.
Ouais, c'est une municipalité qui adore la vie associative.
Ça se trouve. Oui, tout à fait. Oui.
Pour ce que vous en savez, Pascal, il y a combien de sports qui sont représentés sur la commune de Champigny?
Oula, là vous me posez une colle, mais il y a une quinzaine. Hein.
D'accord, ouais. Il y a quoi? Il y a pas de rugby, je pense pas.
Non, pas de rugby. Il y a basket.
Il y a basket, oui, pour sûr.
Il y a de la danse, il y a du karaté, il y a
du tennis.
Du tennis, il y a du volley. Il y a du cyclo, il y a du vélo, il y a du moto de trial. Dans les arts martiaux, il y a plusieurs sports aussi. Il y a de la pétanque.
Il y a toujours eu de belles équipes à Champigny.
Oui, avec des hauts et des bas, mais il y a toujours eu. Mais comme dans les clubs, qui sont historiques un peu partout, quoi. Un club, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, mais ça vit toujours.
Donc, si j'ai bien résumé, ça va être une saison quand même où il va falloir se ressaisir rapidement. Vous sentez que l'équipe a des possibilités de pouvoir engranger des nombreux points.
Alors, oui. Après, je vais... Et pourquoi pas qu'on soit haut, hein.
Pas un match de foot. Oui, non, mais j'ai dit, ça comme ça, voilà.
Mais bon, ça va être très compliqué encore pendant quelques semaines. Faut pas se leurrer.
Donc, pour retrouver l'effectif, je m'excuse Pascal, et ce sera ma dernière question. Pour retrouver l'effectif, alors les blessures, il y a des longues blessures, mais vous espérez de retrouver l'équipe complète quand? À quel moment?
Début novembre.
Donc il y a octobre, là il y a tout ce mois-ci qui va être compliqué, si je comprends bien, et ensuite après, ça devrait aller nettement mieux.
Ouais. Ben, je dirais, c'est le temps que tout le monde... Enfin, en souhaitant qu'il n'y ait pas de nouveaux blessés. Quoi.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Mais il faut compter le temps que tout le monde rentre et se remette en forme, parce qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui sort d'une blessure de 3 à 4 semaines ou 5 semaines, il n'est pas je dirais, vraiment opérationnel du jour au lendemain, quoi.
Parfait. Vous écoutez Culture Sport, vous êtes bien sûr Attitude. Merci de nous avoir choisis. Vous nous écoutez sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.5 pour Ruffec et Nord-Charente. www.attitudefm, c'est notre site internet pour... www.attitudefm.com, c'est mieux quand on le dit bien. C'est notre site internet pour pouvoir nous rejoindre. Et en podcast, dans les briques, Culture Sport. Pascal, on n'a pas parlé des coupes auxquelles vous pourriez participer. Est-ce que vous allez vous engager sur plusieurs coupes en région, en tout cas?
En région, je ne sais pas s'il va y avoir des coupes en région. S'il y a une coupe R3 en région, bien sûr qu'on va s'engager.
D'accord.
Après, dans les jeunes, on n'a pas de... Je ne sais pas pour les U15 s'il y a une coupe ou pas. Pour ce qui est des U17, on ne peut pas s'engager en région puisqu'on n'y est pas.
D'accord.
Donc, il y a une coupe une Coupe Charente qui devrait se faire, théoriquement.
D'accord.
Pour l'instant, elle n'est pas sortie, mais elle devrait se faire. Pour ce qui est des seniors, je dirais, après, au niveau de la Coupe Charente, donc c'est l'équipe B qui va la jouer.
D'accord.
Et la Coupe des réserves, ce sera l'équipe C.
D'accord. Donc, il n'y a pas de, d'engagement en Coupe pour l'équipe 1.
En région, si, s'il y a une Coupe Région qui, ah. qui se fait.
D'accord, ok.
Donc, mais pour l'instant, il n'y a rien de sorti.
D'accord, donc on est dans l'attente, en fait, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Parfait. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur vous, parce que, bon, on en parle beaucoup du club, mais le club, il vit à travers son président. Voilà, donc, qu'est-ce que vous apporte le fait d'être président d'une association sportive ?
Je dirais, c'est une question un peu compliquée. Ça apporte de la joie, je dirais, quand on gagne.
Oui.
Après, ça apporte une certaine satisfaction aussi, à savoir que même si on perd à partir du moment où il y a une bonne ambiance et que ça s'est bien passé, on gagnera la fois d'après, c'est pas très grave. Donc, c'est un esprit de famille un peu. Il y a beaucoup de plaisir, en fait. Après ça, en termes de temps passé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé. Et il faut être assez patient et volontaire pour tout faire.
Vous avez peut-être un emploi qui vous permet d'avoir du temps pour vous occuper du club ?
Oui, tout à fait. Alors, après, si mon patron entendait ça, il explose la tête. Mais non, je suis commercial.
D'accord, moi, ok.
Ça fait un peu plus de 20 ans que je connais mes clients, donc ça me permet effectivement de naviguer entre les deux facilement.
Quelles sont les valeurs que vous véhiculez au sein du club ? Quels sont les axes sociaux forts sur lesquels vous appuyez, pardon ?
Alors, au sein du club, c'est je dirais, comment on peut vous dire ça ? La convivialité, mais le respect d'abord, je dirais.
D'accord.
Le respect, la gentillesse et la convivialité.
C'est important. Ça.
Après, bon, tout le monde ne pense pas forcément pareil, mais à partir du moment où on explique aux gens que nous, on voit les choses comme ça, tout le monde s'adapte. Hein. En plus, je pense que la plupart des gens aiment bien quand tout se passe bien, et ça sert à rien que de chercher la confrontation en permanence.
Est-ce que les nouveaux entrants, ceux qui signent leur première licence ou une nouvelle licence au club de Champigny, ils ont un profil qui correspond aux valeurs du club ? Est-ce que ça fait partie, on va dire, des critères pour pouvoir accueillir des nouveaux arrivants ?
Non.
Non ?
Non, ça ne fait pas partie des critères. C'est un critère dans lequel... ça fait pas. En fait, pour venir à Champigny, il faut avoir envie de jouer au foot déjà, dans un milieu amateur, et c'est la chose la plus importante. Après, les gens qui viennent chez nous, on leur explique comment on voit les choses. C'est que s'ils ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude de rencontrer comme état d'esprit sur le terrain, on leur explique ce qu'on attend d'eux. Et ils rentrent dans le moule ou ils rentrent pas dans le moule, mais ça pose pas de problème particulier. Je dirais, ils ont pas besoin d'être formatés avant de venir chez nous. On leur explique ce que nous on souhaite et ils s'adaptent.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que dans votre club vous avez des effectifs qui sont stables, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de partants, pas beaucoup, est-ce qu'il y a des nouveaux entrants ou pas ?
Non, en partant cette année on en a eu deux sur l'équipe première.
D'accord.
Un sur l'équipe B. Et après, non, c'est tout.
Donc, d'accord, il y a une grande stabilité des effectifs, alors.
Oui. Oui, c'est de ce niveau-là, ça reste vraiment stable.
Et au niveau des nouveaux entrants, vous savez à peu près combien il y a eu de signatures au club ?
Alors, on a un jeune qui était à Nantes qui est revenu, donc lui, il est parti un an, il est revenu chez nous. Mm-hmm. Et puis après, on a eu. 1, 2, 3, 4, 5 arrivants.
D'accord. Donc ouais. En fait, ça dénote une certaine stabilité. Hein. Il y a très peu de mouvement. Enfin, il y a très peu d'amplitude de mouvement entre les entrants et les partants, ce qui fait que ça vous permet de consolider le socle social et sportif du club. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui. Mais je dirais c'est d'une année sur l'autre, en fait, c'est un peu les mêmes personnes. Donc ça change au fur et à mesure. Faut pas se leurrer. Il y aura toujours des gens qui partiront, des gens qui arriveront. C'est logique. Mais c'est pas un renouvellement de 50% de l'effectif du jour au lendemain, quoi.
D'accord. Et ça, c'est une constante à l'Euroclub, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Ça fait longtemps que c'est comme ça.
On parlait des jeunes tout à l'heure. Est-ce que vous avez des... Comment formuler ma question? Est-ce que vous avez des éducateurs qui leur inculquent les valeurs auxquelles le club est attaché?
Oui. Ah, oui, tout à fait. C'est le cas.
D'accord. Donc, vous avez là-dedans un socle sur lequel vous pouvez bâtir.
Voilà, exactement. Non, mais c'est, en fait, si vous voulez, c'est un état d'esprit, quoi. Mais je pense que c'est dû à beaucoup de clubs. Hein. Beaucoup de clubs doivent être comme nous, à savoir qu'on est un club de football amateur, que c'est... En gros, c'est les gens viennent dans le club parce qu'ils s'y sentent bien, ils y restent parce qu'ils s'y sentent bien, et pour s'y sentir bien, il faut qu'ils adhèrent à la politique du club.
D'accord. Ok. On a évoqué tout à l'heure les bénévoles. Est-ce que vous connaissez une crise du bénévolat, ou bien encore, est-ce que vous, de votre côté, le club de Champigny échappe à cette crise un petit peu?
Alors, on a une trentaine de bénévoles.
C'est énorme, ça, Pascal.
Mais c'est pas assez. Ouais. Non. Alors, quand je dis une trentaine de bénévoles, si vous voulez, c'est quand je prends tous les éducateurs, tous les gens qui aident au club, ça représente une trentaine de personnes. Mais je vais vous dire une chose. Franchement, c'est pas assez. Si on avait encore plus, ce serait mieux. Parce que, en fait, il y a des bénévoles qui vont aider un petit peu. Après, les bénévoles qui vont faire beaucoup, il y en a, mais on est moins nombreux, quoi. Ceux qui vont faire beaucoup, il y en a à moitié.
Ouais, ne serait-ce que, par exemple, au niveau des jeunes, pouvoir les véhiculer, les accompagner dans les déplacements, etc. Tout.
Alors, sur les jeunes, on n'a pas de souci. On a nos éducateurs qui sont tous bénévoles, pour la plupart.
Bien sûr.
Ils sont là deux fois par semaine, ils sont là tous les matchs. Franchement, c'est du bonheur.
D'accord.
Du bonheur, j'ai pas à m'en soucier, c'est très très bien. Après, ce que vous me dites là, pour les accompagner sur les matchs ou autres, ils sont des parents, hein. Il faut bien savoir que, alors nous, on a l'avantage d'avoir des minibus que peut nous louer, moyennant le montant du carburant, la mairie, quand on part avec des équipes de jeunes en ligue à l'extérieur.
D'accord.
Et avec l'équipe première aussi. Mais pour ce qui est du département, on demande en général, c'est les parents qui suivent. Et on est un club où justement la grande majorité des parents suivent leurs enfants. Ouais, quand il y a ponctuellement, ça peut arriver que des parents ne soient pas dispo. Bon, mais ils se connaissent tous, ils s'arrangent entre eux. Il n'y a pas de souci. Mais on souhaite pas de toute façon devoir transporter les enfants systématiquement.
D'accord.
Et pas notre but. Pour nous, les parents font partie intégrante du club, quoi.
D'accord. Donc, au niveau des manques, alors ça se situe à quel niveau, des manques de bénévoles, pour vous?
Ah, ben, c'est plus le samedi pour, actuellement, avec le pass sanitaire, faire les entrées à un pass sanitaire, c'est tenir la buvette.
Ouais, ça, c'est une vraie contrainte, le pass sanitaire, quand même.
Ah ben, entre faire les entrées, quand on commence le matin et qu'on finit le soir, toute la journée on a des équipes, c'est pas une contrainte, c'est un sacerdoce, quoi.
C'est clair, c'est nous que j'avais employé, oui.
Parce que, et en plus, après bon, ça, on est obligé de s'y plier, mais on va être sérieux, quoi. Quand vous avez 50 personnes dans un stade qui fait 30 000 mètres carrés, vous vous demandez pourquoi il faut le faire.
C'est juste, c'est une remarque très pertinente, hein.
Mais voilà, on est obligé. Alors on le fait, mais c'est pas simple.
Bien, au niveau du bureau, comment il est constitué?
Eh bien, donc j'ai trois vice-présidents, un trésorier, un secrétaire et moi.
D'accord. Donc c'est une cellule restreinte, on va dire. Mais bon.
Ouais, tout à fait. Après on a un bureau élargi, si vous voulez, qui regroupe tous les éducateurs. En plus, et Voilà, mais bon, on fait pas. C'est un tort, mais moi je suis pas réunionniste, donc on fait très peu de réunions dans l'année. On se voit, je dirais, toutes les semaines, tout le temps, tous. Quand il y a quelque chose à discuter, on n'a pas besoin de faire une réunion pour en parler. Après, je dirais, la réunion, c'est pour les grands axes.
Donc il y a une pour les assemblées générales, etc. C'est
voilà, ça. On va avoir une réunion là en décembre à peu près pour définir ce qu'on va faire sur la deuxième partie de la saison. On a une assemblée générale au mois de juin. Et puis après, on fait une réunion. Les éducateurs, ils font un peu de réunion de temps en temps, mais on a eu une de fête en début de saison et là il n'y en a pas eu à nouveau. Mais voilà, mais après, les seniors, ils se débrouillent entre eux, les éducateurs seniors se réunissent entre eux et les éducateurs jeunes se réunissent aussi entre eux, quoi.
D'accord, ok. Est-ce que vous vous êtes projeté dans le futur pour savoir combien de temps vous allez rester à la tête du club? Est-ce que vous installez dans la durée ou est-ce que vous préparez un futur président peut-être?
Alors, dans la durée, pas une durée excessivement trop longue non plus, faut pas exagérer. Oui. Mais disons que je vais dans pas très longtemps, je vais arriver à la retraite. Je suis encore en pleine forme. Donc je vais continuer, je pense, quelques années, mais il est bien évident que dès que je trouve quelqu'un pour me remplacer, il me remplacera, même si je continue à lui donner un coup de main, c'est pas un problème.
Ouais, c'est le cas souvent, c'est comme ça que ça se passe au sein des associations, parce que vous parliez de sacerdoce tout à l'heure, le fait d'être président d'un club, ça relève du sacerdoce également.
Ouais, voilà. Après, voilà, j'irai, mais bon, on va pas se plaindre puisqu'on l'a accepté. Moi j'ai accepté de l'être, donc je vais pas me plaindre de l'être. C'est en plus il y a quand même du plaisir quand ça gagne, ça te fait plaisir. C'est bien. Mais le fait il est qu'à un moment donné, je pense faut savoir passer la main. Donc dans 4 ans, 5 ans, dans 4 ans ça fera 10 ans à peu près, 4 5 ans ça fera 10 ans je serai de présidence.
Ouais. Ça représente une belle mandature, oui.
Ce sera bien d'essayer de mettre quelqu'un d'autre pour quelqu'un qui a peut-être pas forcément les mêmes idées que moi et puis voilà, qui développera peut-être le club différemment.
Vous parliez de plaisir tout à l'heure, c'est le moteur essentiel?
Ah oui, s'il n'y a pas de plaisir, c'est pas la peine de le faire.
C'est vrai.
C'est honnêtement, aucun intérêt à passer du temps dans une association si on ne trouve pas du plaisir.
En un mot, peut-être parce qu'on va arriver au terme de notre émission, si vous aviez deux ou trois choses importantes à dire et sur lesquelles on soit pas intervenu, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions. Donc, quel est le message important que vous auriez à distribuer aujourd'hui?
Je dirais que c'est... Il n'y a pas vraiment de message important. Peut-être si que les gens essayent d'être... souriants, conviviaux et essayent de retrouver leur joie de vivre d'avant le Covid, quoi. Qu'ils soient moins agressifs pour certaines personnes. Mais bon, ça commence à se calmer déjà.
Oui. Mais, vous aviez remarqué qu'il y avait un changement quand même entre la période avant et après Covid?
Le comportement, oui. L'impatience surtout.
Oui.
Les gens sont impatients alors que. Bon, mais maintenant, ça commence. Je pense que ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre. C'était le fait d'être brimé, de ne pas pouvoir faire ce que les gens voulaient, ça énervait un peu tout le monde.
Et vous aussi, je suppose?
Comme les autres.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On est tous pareils. Hein.
C'est vrai, Pascal. Cette émission, c'est la vôtre. Vous en avez fait quelque chose de très très bien. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous et on vous souhaite le meilleur, Pascal.
Eh bien, c'était un plaisir pour moi.
Parfait. Donc, on va se dire à très bientôt. L'essentiel, c'est qu'on puisse savoir échanger les uns les autres au moins une fois pendant l'année et que vous faites partie des gens et des clubs qu'on a beaucoup de plaisir à suivre.
Et parfait. Je vous remercie beaucoup.
Bonne fin de soirée, Pascal. Merci d'avoir été avec nous.
À vous aussi. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.